Bonjour à tous. Nous ne sommes pas censés le savoir, mais des entreprises, des administrations et même des collectivités passent des accords secrets avec des salariés victimes de harcèlement sexuel au travail. Et certaines clauses de ces accords sont à la limite de la légalité. C'est ce qu'on va voir avec vous, Laetitia Chérel. Bonjour.
Bonjour, Jacques.
Et puis nous recevrons Pierre Maas. Bonjour également.
Bonjour.
Vous avez publié, vous, le business des droits TV du foot. Et alors que démarre le mondial de football féminin, eh bien, nous verrons que ces droits ont atteint des sommets, mais que la bulle est peut-être en train d'exploser.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Harvey Weinstein aurait trouvé un accord financier au civil avec plusieurs de ses victimes présumées et des créanciers qui le poursuivaient. Selon le Wall Street Journal, cet accord s'élèverait à 44 millions de dollars et viserait à englober toutes les procédures intentées contre lui, y compris au Canada et au Royaume-Uni.
Voilà, c'était un extrait d'un reportage d'Euronews, diffusé le 25 mai dernier, qui explique ce qu'était la transaction passée par Harvey Weinstein. Une transaction, c'est-à-dire donner de l'argent contre la fin des poursuites, c'est une pratique assez courante aux États-Unis. Mais Laetitia Chérel, vous êtes rendu compte donc que dans certains cas, eh bien, c'est aussi assez répandu chez nous.
Oui, alors précisons-le bien, hein, on ne parle pas du cas d'un harceleur qui achèterait le silence de ses victimes, comme aux États-Unis, mais bien de conflits entre un employeur et un salarié qui a été harcelé au travail. Et pour bien comprendre de quoi on parle, je vous propose d'écouter le témoignage de cette femme. Nous l'appellerons Claire, elle a 37 ans, elle a été cadre supérieur dans une administration en Île-de-France et en 2016, elle a été harcelée sexuellement pendant plusieurs mois par son nouveau directeur. Elle nous a raconté, sous le sceau de l'anonymat, comment tout a commencé. Nous avons donc fait lire son témoignage.
La première fois, il débarque dans mon bureau et s'installe derrière mon ordinateur, contre moi. Pendant que je déroule ma présentation, il pose la main sur la mienne, puis il se met carrément à la caresser. Je suis pétrifiée. Je lui fais sentir que je ne suis pas à l'aise, mais il reste collé à moi. Après, c'est l'escalade. Il me fait convoquer dans son bureau plusieurs fois par jour par ses secrétaires pour des faux prétextes. J'ai parfois 15 appels en absence en 2 heures. Ça dure 4 mois. J'ai la peur au ventre et je pleure en allant au travail. Un jour, alors que nous sommes seuls dans son bureau, il essaye à 2 reprises de me forcer à l'embrasser.
Ouais, donc c'est clairement, effectivement, ce qu'on peut appeler du harcèlement. Hein. Et qu'est-ce qui se passe ensuite?
Mais Claire vit un véritable enfer. Au bout de 4 mois, épuisée, elle est arrêtée 1 an. Son agresseur est licencié, mais la médecine du travail la déclare quand même inapte et elle est licenciée à son tour. Elle décide alors de saisir les prud'hommes, car elle estime que son employeur ne l'a pas protégée. Mais son avocate lui conseille plutôt de négocier et au final, elle obtient 100 000 euros d'indemnité.
Donc pour elle, ça se termine comme ça, par un accord signé.
C'est ça, mais un accord qui pour elle ressemble au final à un grand gâchis.
Pour moi, c'est complètement hallucinant. Il y a quelques mois, je leur ai demandé de me faire une rupture conventionnelle et ils n'ont pas voulu, alors qu'avec le peu d'ancienneté que j'avais, ils m'auraient juste donné 2-3 mois de salaire. Ils n'ont pas voulu me déplacer dans l'entreprise et là, ils lâchent 100 000 euros parce qu'ils savent qu'ils vont perdre au prud'homme. Alors on peut avoir l'impression que le problème est résolu parce que j'ai eu un chèque, mais je trouve que c'est une grosse injustice du système, parce qu'il a fallu que j'alerte ma hiérarchie, la médecine du travail, les syndicats, que j'aille jusqu'à perdre mon travail et que je menace de saisir les prud'hommes pour qu'on me croie.
Ouais, donc on entend l'amertume de Claire. Maintenant, toutes les femmes à qui on propose une transaction ne l'acceptent pas, hein. Certaines les refusent.
Oui, c'est le cas de cette jeune ingénieure qu'on va appeler Florence. Elle est promise à un brillant avenir quand elle intègre, à 26 ans, un des leaders mondiaux de son domaine. Mais tout bascule quand elle entre dans le service le plus prestigieux de l'entreprise, un service exclusivement masculin. Très vite, ses collègues trentenaires enchaînent les blagues lourdes du type « si t'étais pas en couple, je te draguerais ». Chaque lundi matin, il y en a un qui raconte ses exploits sexuels avec des photos de filles nues draguées sur des sites de rencontres. Et très vite, Florence est prise à partie dans des échanges de mails. Écoutez-la, nous avons fait lire aussi son témoignage.
Un jour, le directeur du service juridique m'a envoyé un mail qui m'a fait bondir. Il disait « je vais te commander ceci, est-ce que ça te convient ?» avec une photo de déguisement de soubrette sexy. Il y en a un qui a répondu « Je valide au niveau du souffle », ce qui voulait dire « Je valide au niveau de la poitrine ». J'ai été vraiment choquée, surtout que j'avais reçu pour mon anniversaire un autre mail avec une photo de jeune et faible nu à quatre pattes.
Oui, ça ne s'arrête pas là.
Non, régulièrement, quand Florence rentre de déjeuner, elle trouve sur son bureau des surprises du type « un bon pour une épilation intégrale » ou « des bas sexy ». Un autre jour, elle surprend même son ancien chef de service en train de la filmer sous sa jupe avec son téléphone. Ça dure 2 ans, Florence encaisse péniblement et sa santé s'en ressent.
J'avais de plus en plus de mal à dormir, mal au dos. Je me sentais incapable d'aller travailler. Je ne voyais pas d'issue parce que je n'avais pas le soutien de mon chef de service. Je me suis affaiblie physiquement, je n'avais plus d'appétit. J'ai été arrêtée en février et je n'ai plus jamais remis les pieds dans l'entreprise.
À jamais. Et alors, qu'est-ce qui se passe en son absence?
Eh bien, la direction congédie le leader de la bande et elle propose à Florence 3 postes qu'elle refuse, car l'un est situé sur le même palier que ses harceleurs et les 2 autres ne lui conviennent pas parce que ça l'aurait notamment obligé à déménager en province.
Et donc, on en arrive à une proposition de transaction?
Oui, une transaction que lui suggère son avocate. Florence accepte d'en discuter, mais suite à sa dépression, elle est déclarée inapte et licenciée. Elle décide alors de saisir les prud'hommes et là, l'entreprise lui propose 60 000 euros.
Et elle refuse?
Oui, parce que ce qu'elle souhaite avant tout, c'est que la justice condamne son entreprise.
En fait, au fil du temps, je me suis aperçue que cette transaction pour moi, ce n'était pas une reconnaissance de mon préjudice. Et que je me sentirais mieux si on passait devant un juge plutôt que si j'acceptais cet argent. J'ai l'impression qu'on a voulu acheter mon silence et que même si mon entreprise a reconnu qu'il y avait eu un dysfonctionnement, je cherche à avoir un jugement de la justice, une reconnaissance officielle de ce dysfonctionnement. Je trouve ça un peu facile que les entreprises s'en sortent en payant et qu'il n'y ait aucune trace officielle de ces dérives.
Florence a donc poursuivi son employeur au prud'homme et le dossier passe cette année en jugement.
Ouais, donc à suivre. Maintenant, ce qu'on peut remarquer à travers ces 2 affaires, Laetitia, ces 2 exemples, c'est que les employeurs mettent du temps avant de s'attaquer au problème.
Oui, parce que souvent, dans ces affaires très sensibles, ils n'ont pas de preuves tangibles ni de témoins. Les harceleurs agissent rarement devant des gens. C'est donc parole contre parole. Et puis, il peut y avoir aussi de la part de l'employeur une forme de déni, comme si on voulait d'abord préserver la réputation de l'entreprise.
Et comment elles justifient ça, les entreprises?
Eh bien, je n'ai malheureusement pas pu le leur demander parce que la transaction est par nature secrète. Donc, si je les avais contactées, on aurait su que Claire, par exemple, avait rompu son engagement de confidentialité.
Oui, parce qu'il faut le rappeler, l'objectif d'une entreprise quand elle passe un accord de ce type, eh bien, c'est justement d'obtenir de la victime qu'elle ne la poursuive pas devant la justice.
Et oui, et si la victime accepte, c'est souvent parce que c'est bien plus rapide de se faire indemniser de cette façon plutôt que d'engager des recours qui peuvent être très éprouvants et qui peuvent durer des années. Et c'est d'ailleurs souvent pour cela que les femmes acceptent un accord, comme l'explique Rachel Saada, avocate spécialisée en droit social.
Le temps joue toujours contre la victime et pour le responsable. Les victimes, souvent, elles n'ont pas les moyens d'attendre. C'est-à-dire que toute cette affaire les a fragilisées. Souvent, ça aboutit dans 90% des cas à la perte de l'emploi. Donc, la victime n'a pas le temps d'attendre. Elle a perdu son emploi, elle se retrouve soit avec des allocations maladie, soit avec une allocation chômage. Donc grosso modo, elle a perdu entre 40 et 50% de ses revenus.
Ouais, donc on accepte une transaction pour éviter de longs délais de justice. Et en même temps, Laetitia, eh bien, c'est souvent parce qu'on menace d'aller en justice justement que les choses se débloquent.
Oui, alors ça c'est ce que m'ont affirmé plusieurs avocats de victimes et aussi d'employeurs. À en croire par exemple l'avocate Maud Beckers, c'est bien la perspective d'un procès qui pousserait les entreprises à proposer une transaction.
C'est un contrat qui va être passé au moment où la victime annonce qu'elle risque de saisir une juridiction prud'homale. Et là, l'employeur va vouloir faire en sorte que ce dossier puisse devenir confidentiel. Et la manière de rendre un dossier confidentiel, c'est de signer une transaction. Une transaction où l'employeur va proposer une somme d'argent à la victime en échange de son silence et d'abandonner tout procès devant la justice, au prud'homme, et également de ne pas témoigner dans le cadre d'autres procès où la société serait peut-être amenée à devoir se justifier sur un autre cas de harcèlement sexuel, par exemple.
Attendez, il existe des clauses dans lesquelles on demande à la victime de ne pas témoigner dans d'autres affaires de harcèlement ?
Absolument, et c'est d'ailleurs ce que nous confirme l'avocate Rachel Saada, qu'on a entendue tout à l'heure.
C'est une pratique que les cabinets anglo-saxons ont largement répandue, et c'est donc très fréquent, et ces clauses ne sont pas licites. Et elles sont pourtant présentes comme clauses d'intimidation, finalement, à l'égard de la personne qui a signé. C'est comme si on lui disait « Attention, maintenant que tu as obtenu la somme que tu voulais, tu dois te taire à jamais et pour tout ». En réalité, il peut y avoir certes une confidentialité de l'accord, mais il n'est pas question d'interdire à la personne de témoigner de faits dont elle aurait pu être témoin.
Oui, parce que ça veut dire qu'on se priverait ainsi de témoignages qui pourraient servir à d'autres femmes dans d'autres affaires de harcèlement.
C'est ça. Et ces témoignages sont d'autant plus importants que les harceleurs sont souvent récidivistes, comme l'explique Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'AVFT, l'association contre les violences faites aux femmes au travail.
Il est extrêmement fréquent que nous, on soit confrontés à des situations dans lesquelles le harceleur a harcelé plusieurs femmes, soit en même temps, soit successivement, soit dans plusieurs entreprises à la suite. Et effectivement, ça devient la norme d'interdire par la voie transactionnelle le témoignage dans une autre procédure, ce qui est excessivement préjudiciable à la manifestation de la vérité, puisque dans ces dossiers-là, on a rarement de témoins directs et la preuve se fait par ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordants. Et le faisceau d'indices contient la plupart du temps le témoignage d'autres victimes qui éventuellement ne connaissaient pas les suivantes.
Mais empêcher ces femmes de témoigner, Laetitia, c'est légal, ça ?
Alors ça se discute, hein. En tout cas, plusieurs avocats considèrent que ça pose un problème, et c'est notamment le cas de l'avocate Maud Beckers.
Ces clauses-là, pour moi, sont très critiquables, parce que c'est de la subordination de témoins selon la définition pénale, c'est-à-dire qu'on donne une somme d'argent à une femme et on lui dit « vous ne pourrez plus témoigner ». Donc on achète le silence d'un témoin potentiel. Donc moi, en règle générale, j'essaye de me battre pour que ces clauses n'existent pas dans les transactions. Mais je vous avoue que c'est très rare de réussir à faire supprimer cette clause, puisque c'est le but recherché par l'employeur, que justement cette victime ne puisse plus dire qu'elle a été victime et ne puisse plus être témoin pour une autre femme éventuellement plus tard.
Oui, c'est quand même assez incroyable hein, d'entendre ça. Mais il y a autre chose qu'on peut relever, Laetitia, c'est que ce ne sont pas forcément les harceleurs qui quittent l'entreprise. La plupart du temps, ce sont les victimes.
Oui, les victimes que j'ai rencontrées avaient quasiment toutes été exfiltrées par leur employeur après avoir révélé leur harcèlement. Alors, difficile de savoir si ce sont des cas isolés ou majoritaires, puisqu'on n'a pas de statistiques. Mais en 2014, une étude du Défenseur des droits estimait que parmi les femmes qui dénoncent du harcèlement sexuel au travail, 4 sur 10 en subissent les conséquences dans leur carrière jusqu'à perdre leur emploi. Et pour Marilyn Baldeck, de l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, ce chiffre est bien plus élevé.
Dans les dossiers de la VFT, 95% des salariés qui ont dénoncé du harcèlement sexuel ont perdu ou finissent par perdre leur travail. Ça s'explique parce qu'elles remettent en cause la plupart du temps un supérieur hiérarchique qui, dans leur entreprise, a beaucoup de pouvoir ou qui a le soutien de ses autres collègues. Donc c'est impossible pour elles de rester dans une entreprise dans laquelle tout le monde se solidarise autour du harceleur. Mais également, et ça c'est vraiment un schéma extrêmement classique, elles ne peuvent pas conserver leur travail parce que leur état de santé ne le permet plus. Puisque ces violences entraînent des désordres physiques et psychiques extrêmement importants, ça je pense qu'il faut sans arrêt le répéter, et c'est pour ça qu'elles sont très régulièrement licenciées pour inaptitude médicale constatée par la médecine du travail.
Oui, et une fois qu'elles sont licenciées, d'ailleurs, elles ont souvent du mal à en retrouver du travail.
Ah oui, et c'est le cas de la plupart des victimes que j'ai rencontrées, notamment de Claire, vous savez, la personne qui a signé une transaction et qu'on a entendue tout au début.
Depuis mon licenciement, je n'ai jamais retrouvé de travail à responsabilité et salaire équivalent parce que les entreprises que je contacte me demandent souvent pourquoi je suis partie au bout de 3 ans d'une structure publique où il n'y a pas de licenciement. Ça paraît suspect, mais comme ma transaction m'interdit de parler de ce qui m'est arrivé, j'ai fini par mentir, par dire que j'ai eu un CDD qui n'a pas été renouvelé. Et quand ils me demandent des coordonnées pour des références chez mon ancien employeur, je ne sais jamais quel nom donner, et ça aussi c'est suspect.
Oui, du coup, Laetitia, la transaction, ça peut donner l'impression d'être une solution pour la victime. Mais en fait, c'est rarement satisfaisant.
Ah oui, et ça, l'avocate Rachel Saada l'a constaté à de nombreuses reprises. L'argent ne répare pas tout.
C'est vrai que la transaction peut créer la frustration. Premièrement, que ça ne soit pas public. Deuxièmement, qu'il n'y ait pas de condamnation. Et troisièmement, que finalement, ça n'ait rien changé dans l'entreprise au bout du compte.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu que les transactions dans des cas de harcèlement sexuel au travail sont monnaie courante dans les entreprises comme dans les administrations d'ailleurs. Mais ce qu'on va voir maintenant, Laetitia Chérel, c'est qu'en fait, ça fait très longtemps que ça dure.
Oui, et y compris dans les collectivités locales d'ailleurs. Un exemple, fin 2006. Ça se passe à Montereau, dans l'Yonne, dont Yves Jégot, l'ex-secrétaire d'État à l'outre-mer de Nicolas Sarkozy, est alors le maire UDI. À cette époque, celle qu'on va appeler Lola est nommée secrétaire du chef de la police municipale. Et très vite, selon la jeune femme, son supérieur la harcèle pendant plusieurs mois.
Aux alentours de la fin de l'année 2006, début de l'année 2007, j'ai commencé à être harcelée par le chef de la police municipale. Il me transmettait des vidéos pornographiques et donc un jour, il m'a montré une vidéo de sa compagne lui faisant une fellation. Sur le coup, j'ai eu du mal à réagir. Je suis restée sidérée, complètement déstabilisée. Il se passait pas une semaine sans que j'aie des vidéos pornographiques sur ma boîte mail professionnelle, même des vidéos zoophiles. Donc ça durait pendant des mois. Et parallèlement à ça, il essayait d'obtenir de moi que j'accepte de coucher avec lui. Donc j'ai refusé systématiquement, et même parfois de manière véhémente. Donc, il n'y avait aucune ambiguïté sur le fait que je n'étais pas intéressée. Et c'était très compliqué pour moi parce que, en fait, j'allais évidemment pas lui dire oui, mais je sentais bien que quand je lui disais non, systématiquement, je lui écrivais par mail ou je lui disais que c'était dégueulasse, que j'étais pas payée pour recevoir ce genre de choses sur mon lieu de travail. Il continuait généralement de plus belle. Et d'ailleurs, un jour, il me l'a exprimé clairement. Il m'a dit « plus tu me dis non et plus tu m'excites ».
Ouais, c'est glaçant ce témoignage. Et le fonctionnaire dont elle parle, il reconnaît lui les faits ?
Alors je l'ai appelé, mais il n'a pas souhaité faire de commentaires.
Ouais, et alors la suite de l'affaire, c'est quoi ?
La suite, c'est que Lola tombe en dépression et elle est arrêtée 18 mois. À ce moment-là, les choses s'enveniment avec la mairie qui refuse de reconnaître que son état dépressif est lié au harcèlement sexuel qu'elle dit avoir subi. C'est alors qu'une proposition de transaction intervient entre son avocat et celui de la ville.
Donc l'affaire se règle.
Alors pas vraiment. En 2012, selon plusieurs documents que nous nous sommes procurés, la mairie propose à Lola 25 000 euros en échange de son silence. Mais Lola refuse et elle nous explique pourquoi.
Ils acceptaient de reconnaître la maladie professionnelle sans réellement reconnaître le harcèlement sexuel qui en est à l'origine. Donc ça, pour moi, c'était un écueil insurmontable. Et le deuxième problème fondamental, et pas des moindres, c'est qu'ils avaient exigé que je fasse la déclaration sur l'honneur suivante. Je sous-signais Lola, fonctionnaire territoriale auprès du service des archives de la commune de Montereau, déclare qu'à l'occasion des faits de harcèlement dont j'ai été victime de la part de mon supérieur hiérarchique, en 2007-2008, la commune ainsi que son député-maire m'ont toujours apporté leur entier soutien, tant sur un plan moral et humain que sur un plan juridique.
Ah oui, donc on demande à la victime de reconnaître de manière officielle et de le signer que la mairie a été exemplaire, quoi, parfaitement géré son affaire.
Exactement, mais cette clause, Lola refuse de la signer.
Et donc ?
Eh bien, en 2015, la mairie la suspend pour avoir dénoncé ses faits de harcèlement sexuel, mais la ville sera ensuite condamnée en 2017 à lui verser 4000 euros pour l'avoir sanctionné. Alors j'ai contacté l'avocat de la mairie et lui fait valoir que Lola a été mutée dès que la ville a eu connaissance des faits.
Et l'ex-chef de la police municipale, lui, qu'est-ce qu'il est devenu ?
Il a été mis en examen et il attend son procès pour la fin de l'année. Il vient d'être révoqué d'un poste qu'il occupait ailleurs pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions.
Secret d'info sur France Inter.
Alors maintenant qu'on a démontré que les transactions sont fréquentes et ne datent pas d'hier, voyons ce qu'il en est aujourd'hui, Laetitia Chérel. Depuis l'affaire Baupin et le phénomène MeToo, est-ce qu'on transige moins? Autrement dit, est-ce qu'on va plus facilement devant les prud'hommes?
Alors ça, c'est vraiment difficile de le savoir, vu que par nature, une transaction est secrète. Maintenant, j'ai demandé à l'avocate Catherine Moret, spécialiste en droit social à Bordeaux, si le nombre de recours aux prud'hommes avait augmenté depuis MeToo.
Pas pour le moment. Cela étant, il faut savoir qu'il y a une sorte de force d'inertie en matière de procès, puisque le temps que les problématiques arrivent devant les tribunaux, il se passe un certain délai. Donc, généralement, les répercussions de nos phénomènes de société dans les palais de justice peut prendre un certain temps, parfois même quelques années. Donc, on aura peut-être une répercussion, mais à ce jour, statistiquement, je ne peux pas dire que nous ayons eu une explosion ou même une augmentation du nombre de dossiers fondés sur du harcèlement sexuel.
Des dossiers présentés par des victimes. Maintenant, côté entreprise, Laetitia, est-ce que le contexte récent les a poussés à mieux lutter contre le harcèlement?
Alors là encore, pas de chiffres récents. En 2014, toujours selon l'étude du Défenseur des droits, seuls 18% d'entre elles avaient mis en place des mesures de prévention. Et pour l'avocate Maud Becker, certaines entreprises feraient toujours le calcul suivant.
Ça coûte moins cher de perdre un procès au prud'homme pour harcèlement sexuel que de mettre en place une politique de prévention. Donc, quand on sait qu'il y a une femme sur cinq qui est victime de harcèlement sexuel au travail, mais qu'il n'y en a que 5% qui saisissent les juridictions, bien évidemment, l'employeur, un peu pernicieux, va faire son calcul budgétaire de cette manière-là. Je risque d'avoir des cas de harcèlement sexuel dans mon entreprise, il y en aura très peu qui saisiront, et puis de toute façon, quand elles saisiront, ou je négocierai, ça ne se sera pas, ou elles iront jusqu'au prud'homme, et les sommes ne seront de toute façon pas très importantes. Donc, est-ce que j'ai besoin d'impliquer un système de prévention qui va être coûteux?
Oui, donc selon elle, on n'aurait pas vraiment avancé. Maintenant, tout le monde n'est pas de cet avis.
Effectivement, pour d'autres experts, il semble qu'il y ait bien une prise de conscience. C'est ce que constate Marilyn Baldeck de l'association contre les violences faites aux femmes au travail.
Moi, je peux en juger à l'aune du nombre de sollicitations d'employeurs privés comme publics adressées à l'association pour organiser des sessions de formation dans une entreprise. En 2016, l'association réalisait une vingtaine de formations de sensibilisation par an pour des entreprises. Là, on en fait une centaine par an.
Une centaine, et certaines entreprises semblent d'ailleurs particulièrement en pointe sur ce terrain-là.
Et c'est le cas d'Essilor, par exemple, le numéro 1 mondial de l'optique, qui refuse toute transaction par principe. Ça a été le cas en 2012, quand le groupe a licencié un haut cadre accusé par 4 femmes de comportements portant atteinte à leur dignité. Les prud'hommes condamnent alors l'entreprise à payer 600 000 euros à l'ancien cadre, estimant son licenciement abusif. Mais l'entreprise ne lâche rien. Elle maintient les 4 salariés et elle fait appel, comme nous l'explique Aurélie Delavessière, la responsable des relations sociales qui a géré ce dossier.
Nous avions été quand même condamnés à des sommes astronomiques de 600 000 euros, à verser donc aux salariés harceleurs. Et de ce fait-là, nous avons décidé, pour soutenir les victimes, nous avons décidé de faire appel pour démontrer aussi aux salariés qu'elles avaient le droit à leur maintien dans l'emploi, qu'on reconnaissait leur statut de victime et qu'on poursuivait effectivement nos actions contre ce salarié. Et heureusement, la cour d'appel nous a donné pleinement raison et a reconnu que le licenciement était avec cause réelle et sérieuse pour harcèlement sexuel et harcèlement moral.
De son côté, le cadre mis en cause s'est pourvu en cassation. En attendant, depuis cette affaire, Essilor a encore renforcé sa procédure d'accompagnement des victimes. Les personnes qui dénoncent du harcèlement sexuel sont accompagnées, si elles le souhaitent, par un psychologue, par un médecin ou par une assistante sociale.
Oui, des exemples comme ça, il y en a d'autres d'ailleurs, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup de travail, mais que les choses bougent quand même un peu. Merci Laetitia Chérel pour cette enquête. Alors je précise qu'on peut la réécouter sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter. Investigation RF. Mais restez avec nous surtout. Dans quelques instants, on va voir que les droits de retransmission du foot à la télé, eh bien, c'est une bulle qui est en train d'exploser. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. C'est saturé, dynamique à souhait, c'était Help Me Stranger, extrait du troisième album des Raconteurs. C'est l'autre groupe du chanteur américain Jack White.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Pierre Mahas, bonjour.
Bonjour.
Alors que le mondial de football féminin commence, on va s'intéresser maintenant aux droits de retransmission télé. Vous avez publié le business des droits TV du foot. Alors pour mémoire, et on va préciser les choses, ces droits, c'est un marché colossal. C'est 50 milliards de dollars dans le monde, c'est ça ?
50 milliards de dollars, c'est le chiffre de 2018, en effet.
Alors ce chiffre, il se répartit chez qui ? C'est-à-dire à qui il profite ? Aux ligues, aux clubs ?
Exactement, ils profitent aux ayants droit, donc les vendeurs de droits, c'est-à-dire les ligues, les clubs. In fine, vous le savez bien, ça termine dans la poche des joueurs et des agents de joueurs.
Alors, tout ça, ça démarre en fait véritablement avec l'apparition des chaînes payantes, hein, si on fait un peu d'histoire pour comprendre comment on en est arrivé là. 84 en France, c'est l'apparition de Canal+, TPS, Sky en Angleterre, c'est ça ?
Exactement, il ne faut pas sous-estimer en amont de cette période l'arrivée des chaînes privées commerciales vivant de la publicité, à la TF1 on va dire, qui ont dynamisé déjà ce secteur quelques années auparavant, mais il est clair que c'est l'entrée des télévisions à péage avec les plus emblématiques en Europe qui sont Canal+, en France et Sky en Angleterre, exactement.
Ouais, donc c'est les années 80 et puis ensuite ces tarifs explosent en 92 avec cette fois-ci la création de la première ligue en Angleterre. C'est ça qui va faire exploser le marché.
Alors 92, c'est une année charnière parce qu'en fait, c'est l'année où se crée la première ligue, donc où se professionnalise réellement le football professionnel anglais. Et en même temps, se crée la Ligue des Champions. L'UEFA crée la Ligue des Champions aussi avec un produit extrêmement extrêmement professionnel, extrêmement attractif. Et donc 92 est réellement une année charnière pour le business.
Donc là, les tarifs vont exploser. Et puis en France, l'explosion, ça sera le début des années 2000. C'est Canal+, hein, qui va battre le record.
Alors oui, Canal+, s'est longtemps battu pour préserver son monopole, avec plus ou moins de succès. Et il faut reconnaître que les dernières années ont été extrêmement pénibles pour la chaîne à péage. Après avoir vaincu TPS, ils ont vu débouler beIN, puis le groupe Altice SFR. Et maintenant, l'espagnol Mediapro. Donc, pour Canal+.
La concurrence est rude, on va en parler. Mais ce qu'on a envie de comprendre, c'est pourquoi Canal+, a autant investi dans le foot ? Parce qu'en même temps, c'était pas rentable pour eux.
Je dirais pas ça. Je pense que le foot était un des éléments essentiels de la motivation d'abonnement des abonnés en France. Certes, la Ligue 1 n'a sans doute pas le pouvoir d'attraction de la Première Ligue, mais Canal+ a utilisé le football professionnel français également pour s'installer avec succès dans le marché de la télévision à péage.
Alors, on a les chaînes donc satellitaires et payantes que sont TPS et Canal+ dans ces années-là. Et puis ensuite, vous les avez déjà cités, enfin certains d'entre eux, on a les opérateurs de téléphonie mobile qui vont se positionner également et qui vont tenter de la racheter, donc Orange et SFR.
Voilà, en fait, c'est plus large que ça. Ça ne se limite pas à la télécommunication mobile. Bien souvent, d'ailleurs, ce sont des opérateurs qui sont partis du fixe à la France Télécom, ou par exemple en Belgique, nous avons les câbles opérateurs qui étaient très présents dès les années 1960-70. Et eux se sont lancés dans la bagarre du contenu sportif avec des stratégies diverses. Les plus agressifs sont certainement le groupe Altice, SFR, RMC, on va dire, et BT en Angleterre.
En même temps, il se lance dans cette bataille et puis ensuite il s'en retire comme si finalement c'était pas suffisamment rentable ou ça leur coûtait trop cher. On l'a vu avec Orange, puisque Orange a renoncé finalement en 2012. Et puis SFR aussi, en ce moment, est en train de reculer.
Tout à fait. Orange a jeté le gant assez vite, en fait. Ils ont fermé leur chaîne sportive, effectivement, au vu des résultats qui n'étaient pas bons. SFR, clairement, est en train de faire une marche arrière, si pas un stop complet. Et on voit la même chose du côté de BT en Angleterre, British Telecom, donc, qui, après des investissements, je dirais, phénoménaux, BT est en train de reculer.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les droits du foot sont montés trop haut?
Ben voilà, je pense. Alors, ça a été trop haut, c'est-à-dire que le consommateur ne suit plus, le consommateur ne paye plus.
Et donc ça va baisser, la bulle va exploser?
Il va y avoir une correction, c'est évident, et la correction a déjà commencé en fait. Pour la première fois, les droits domestiques, c'est-à-dire les droits pour le territoire anglais de la Première Ligue, ont enregistré une baisse de 10% en 2018, alors que nous avions eu consécutivement deux hausses de 70%.
Alors on a évoqué jusqu'ici les diffuseurs, ceux qui achètent ces droits. Parlons un peu maintenant des consommateurs. Vous dites au final le consommateur est très peu protégé, il a moins de choix et de services et c'est toujours plus cher.
Exactement. Chaque année, il doit débourser plus. Chaque année, il doit faire une gymnastique avec les différents abonnements pour voir le football qu'il préfère.
Sachant qu'on n'a pas évoqué les OTT, c'est-à-dire les diffuseurs de contenu indépendants des opérateurs de boxe, mais il y a aussi Netflix, il y en a d'autres dont on peut penser qu'ils pourraient se positionner.
Alors bon, citons déjà le cas de Netflix. Netflix lui-même a dit « le foot, c'est pas pour nous ». Au moins, c'est clair. En ce qui concerne les autres opérateurs OTT, c'est clair que c'est une tendance qui est suivie par beaucoup, par les ligues notamment, qui créent leur offre over the top, puisque ça s'appelle comme ça. En fait, over the top, ça veut dire qu'on contourne le décodeur de l'opérateur, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, on peut accéder à une offre télévisuelle en ayant simplement un accès Internet. Donc, au final, ces offres OTT ne résoudront rien pour le consommateur. Il devra vraisemblablement additionner les différentes offres OTT s'il veut voir tout le foot qu'il veut.
C'est-à-dire faut qu'il multiplie les abonnements, quoi.
Exactement. Ouais. Donc en fait, les abonnements, ce seront des opérateurs différents, auront un nom différent, mais il devra prendre l'OTT Première Ligue, il devra prendre l'OTT Serie A s'il veut regarder le foot italien, et il devra prendre l'OTT Ligue 1 pour regarder les matchs français.
Et vous soulignez du coup un phénomène assez intéressant qu'on pensait réservé au cinéma, c'est qu'il y a de plus en plus de piratage pour regarder les matchs de foot sur un ordinateur ou à la télé.
Alors c'est là que le consommateur démuni retrouve le pouvoir. Le piratage des événements sportifs est très confortable. Il y a non seulement ce qu'on appelle le streaming classique sur un ordinateur, mais aujourd'hui il y a des offres très sophistiquées qui s'appellent l'IPTV, qui permettent pour une somme modique de regarder quasiment toutes les chaînes à péage du monde entier en fait.
Alors parlons du foot féminin, puisque le mondial a démarré hier soir. Mmh. On évoquait les droits. Les droits du foot féminin, ça représente quoi par rapport au foot masculin?
On lit que TF1 aurait consacré de 10 à 12 millions pour l'événement ici. Ce chiffre me laisse un peu sceptique parce que je le trouve assez élevé. Comparé aux 130 millions que TF1 aurait déboursé pour la Coupe du Monde masculine.
Vous pensez pas qu'il y a un engouement aujourd'hui pour le foot féminin qu'il faut pas sous-estimer?
Il y a un engouement qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est certain. Et on voit que la FIFA a agi avec un peu de retard et qu'ils constatent qu'effectivement, maintenant, il y a quelque chose qui bouge. Et donc, ils ont pris les choses en main. Ils ont organisé ici, donc en collaboration avec le comité d'organisation français, quelque chose de très professionnel. En même temps, ce qu'on peut aussi dire, c'est que, oui, il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de buzz, de bruit, mais je me demande si c'est pas un peu artificiel.
Vous ne croyez pas, vous, à la popularité du foot féminin, si je vous entends?
Pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Je pense qu'il peut trouver une certaine popularité. Il peut trouver sa niche, mais il n'atteindra jamais, au niveau des droits de retransmission, le niveau du foot masculin.
Bien, merci Pierre Masse. Alors pour ceux qui voudraient aller plus loin, donc je rappelle que votre livre s'intitule « Le business des droits TV du foot » et il est édité chez FYP. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer et réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Loïc Frapsos et Elisabeth Collet. Dans quelques instants, CO de mon amour, Denis Chessou rendra hommage à Michel Serres. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.